Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 19 juin. Il faisait beau et maintenant, eh bien, il y a un peu de pluie. C'est le moment d'aller au cinéma, pourquoi pas. Bonjour Marine.
Bonjour et bonjour à tous. J'allais dire bonjour Manu, mais Manu n'est pas là.
Non, Manu n'est pas là. Et toi, tu es venu pour nous parler d'un film. Tu
as contre la pluie. C'est mon film de la semaine. C'est Né quelque part de Mohamed Hamidi avec Jamel Debbouze et Toufik Djellab qu'on a rencontré il y a deux semaines de ça.
Voilà, et donc avec une interview de Jamel,
qui était plutôt un personnage insupportable. Bah, disons que c'est surtout lui en fait qui a parlé plus que le réal et plus que l'acteur principal du film finalement. Donc c'est surtout lui qu'on va pouvoir entendre par la suite.
Et puis moi, je vous parlerai d'un autre film qui sort aujourd'hui, Very Englishman, c'est le dernier Michael Winterbottom. Et puis, il y aura la suite de l'interview avec Alain Giraudy. J'avais commencé à passer la première partie la semaine dernière. C'est celui qui a fait L'Inconnu du Lac, film où on voit eh bien, un acte sexuel entre homosexuels non simulé. Il parlera eh bien, de son cinéma, enfin aussi de la représentation du sexe et puis aussi de son cinéma. C'est Cinérama qui débute.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Et on commence donc avec Né quelque part. Alors l'histoire, c'est celle de Farid, un jeune français qui se prépare un bel avenir d'avocat, qui part en Algérie afin d'empêcher la destruction de la maison de son père. Lui, qui n'a jamais été dans le pays de ses origines, rencontre son cousin, joué donc par Jamel Debbouze, algérien de son âge et dont le rêve est de partir en France. Ce qu'il va d'ailleurs faire, puisqu'il va voler les papiers de Farid et qu'il se retrouve donc incapable de rentrer chez lui. Alors, on sent qu'il y a derrière ce film plus qu'une simple comédie. C'est vrai qu'en même temps, le réalisateur Mohamed Hamidi est loin d'être un simple faiseur. Il a d'ailleurs un parcours assez atypique, puisqu'il a mis en scène les spectacles de Jamel Debbouze. En même temps, il a créé le Bondi Blog, donc un parcours comme ça fait de plusieurs choses. Et là, il me semble que c'est son premier film. Malgré tout, bon, même si ça ne reste pas la basique comédie française qu'on pouvait craindre, notamment à cause de la présence de Jamel Debbouze, c'est pas non plus exceptionnel. Ça évite quelques clichés, quelques poncifs, et surtout, ça devient bon, je pense, dans la seconde partie, c'est-à-dire celle qui est beaucoup plus dramatique, et à partir du moment justement où le personnage de Jamel Debbouze disparaît en fait du scénario. Mmh. Alors, on a rencontré donc toute l'équipe du film, surtout Jamel qui était assez omniprésent et qui nous a donné une super conférence de presse. Alors d'ailleurs, dès la première minute où il a parlé, il a directement marqué ses préférences radiophoniques et apparemment son cœur ne battait pas pour Divergence.
Bonjour mademoiselle. Vous travaillez pour quel journal ? Radio Aviva.
D'accord.
J'ai hâte d'entendre votre question.
Bon, nous par contre, il en avait rien à foutre. Alors ensuite, ça a commencé très fort. Il s'est offusqué de nos coutumes montpelliéraines directement.
3 bises, mais qui a inventé ce concept ?
Et alors là, du coup, on part directement dans le débat cinéphile sur les bises.
Non, mais 4, c'est mieux.
Non, mais 3, c'est pervers, 3.
Paris, c'est 2. Paris, c'est 4.
Ah, bah ça fait 10 fois
4. Et y a... Ah, une carte des bises, carrément, en France.
Ouais, y a une carte des bises.
Ah, je savais pas.
Ah, 4 bises, 3 bises, 2 bises, que faire, que choisir? C'est vrai que c'est un vrai problème. Donc après, pour rester dans les sujets de société, on lui a posé des questions sur le mariage gay. Bon, c'est vrai qu'arrivé là, c'est un petit peu normal qu'au bout d'un moment, il se soit posé ce genre de questions.
Quelqu'un a une question intéressante?
Oui, parce que c'est vrai qu'il n'y en avait pas vraiment. Mais bon, en même temps, les journalistes montpelliérains ne sont pas rancuniers. Ils ont fait plutôt honneur à l'humour de Jamel. C'est ce qu'on a pu entendre à peu près 10 fois en une demi-heure. Bon, voilà, pour finir, l'état d'esprit général était à peu près résumé par ça.
Nous, on a oscillé entre casse-toi et bienvenue.
Voilà, c'était à peu près ça qu'on a pu penser.
C'était assez étrange, effectivement. Alors, non seulement il a répété effectivement qu'il n'y avait pas de questions intéressantes, alors sur le ton de la plaisanterie, évidemment, second degré, jamais.
Toujours sur le ton de la plaisanterie.
Il ne peut pas s'empêcher, voilà. Mais ses réponses n'étaient pas davantage.
Bah, disons que ce n'est pas après un très bon client de radio aussi, parce que comme vous allez pouvoir l'entendre dans l'interview, qui est malgré tout très bonne, restez avec nous, mais c'est pas quelqu'un qui parle de façon extrêmement claire, extrêmement explicite, et il a tendance
il est un peu
à faire kiki, et aussi à faire pas mal de bruit parasite, pas mal de mots parasites aussi. Ouais. Il parle un petit peu comme quand il joue sur scène. D'ailleurs, on va tout de suite écouter l'interview.
L'affaire de Ouldé, la détrophée blastée.
Moi en Algérie, qu'est-ce que j'aille faire là-bas? Je parle même pas l'arabe.
Pour les concours, comment tu vas faire?
Je t'ai dit, je pars une semaine, c'est rien.
M'slama alaikum.
Tu vas l'envoyer lui?
C'est pas parlant, on dirait Barry White en Kabyle.
Ah, Farid, Fada,
hein? Ah, ça va? Ça va?
De manière, je pense, pour un immigré de vivre les choses. Soit il se sent en danger parce qu'il n'est pas le bienvenu, c'est au travers du regard des autres qu'on est ce qu'on est. Soit effectivement il est le bienvenu, puis d'un coup les choses sont beaucoup plus douces. Nous on a oscillé entre casse-toi et bienvenue. Toute notre vie, nos arrière-grands-parents, nos parents, nous-mêmes. Et on nous appelle les immigrés ici, on nous appelle les migrés là-bas, c'est important de le souligner aussi. On nous rappelle qu'on est chez nous nulle part. On se considère partout, c'est ce qu'on raconte le film, on est né quelque part, point barre. C'est presque un sujet pour les autres, en fait. Mais c'est vrai que ça crée vraiment des frustrations quand on n'a pas réglé le problème. C'est pour ça que c'est important de dire que c'est un film de transmission et que si ça permet aux jeunes immigrés d'aller vers leurs parents pour leur demander effectivement quelle est leur histoire, d'où ils viennent et quand on voit ce père qui construit cette maison, probablement les enfants n'y mettront jamais les pieds. C'est quand même un vrai sujet, la crise identitaire.
Moi aussi, je vais naître à la France. C'est mon père qui devait partir à la France. Alors, toi, t'es né là-bas. Et moi, je suis né ici. C'est comme ça.
C'était un réel plaisir pour moi et une opportunité de jouer un roublard pareil. Jouer un clandestin, c'est extraordinaire parce que j'avais envie, moi, je sais pas si j'ai réussi, mais vraiment c'est ça que j'avais dans la tête, de l'humaniser au maximum. Qu'on se rende compte que ce clandestin n'a qu'une seule envie, c'est de vivre la même chose que nous finalement, tu vois. Aller au restaurant, pouvoir inviter une copine, s'acheter des chaussures, avoir un téléphone. C'est con comme la lune, mais pour eux c'est un fantasme. Risquer sa vie pour ça, faut être con ou obligé.
C'est ici, c'est toi.
Ah, j'aime bien, je te présente mon cousin de la France.
Soyez le bienvenu.
Et ici, comment ça va?
L'Algérie, c'est un pays riche.
L'Algérie, c'est un pays riche, mais on n'a pas d'argent.
C'est quoi ce bordel? C'est la morée dans le pré ou quoi? T'es où?
Un peu d'intimité, c'est possible ça?
Tu sais comment on dit intimité en arabe?
Ça n'existe pas.
Mais tu m'as dit un jour, j'ai envie que les gens se sentent en Algérie.
Ouais.
Et c'est vrai, quand on va en Algérie, l'ambiance est la même. Les mots sont les mêmes et la manière de dédramatiser sont les mêmes. T'as vu, ils font des vannes tout le temps. Les pauvres et les frustrés ont cette et les gens intelligents ont cette manière de dédramatiser, tu vois, pour mieux vivre. C'est ça, c'est pour ça qu'il en a fait une comédie. C'est d'abord une comédie parce que c'est beaucoup plus vrai que de raconter un drame. Ça chiole, Vinny, jusqu'à la fin.
Je suis français. Je veux juste rentrer chez moi. C'est que vous êtes français, c'est pas marqué sur votre front. Hein.
Il est venu pour une semaine, il est bloqué ici.
Il faudrait vraiment qu'on aborde cet itinéraire dans sa globalité. C'est important de traiter ce genre de choses, que c'est des choses qui nous concernent, en tout cas moi qui m'interpelle, la condition des gens dans les centres de rétention, cette espèce de no man's land où ils sont stockés en attendant d'être éventuellement libérés ou expulsés. Moi je voulais suivre l'itinéraire d'un jeune homme et effectivement le suivre dans sa vérité. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir pencher vers une comédie ou pencher vers un drame. Lui, dans son itinéraire, il y a des moments où il rit, il y a des moments où il rencontre des gens drôles, il y a des moments où il vit des choses difficiles, et puis il y a des moments où il vit des choses très dures. Et je voulais être là-dedans. C'est vrai que c'est pas forcément évident au départ à imaginer, même pour des producteurs ou pour des distributeurs, se dire, mais alors, c'est une comédie ou c'est un drame? Et moi, alors, en toute humilité, je trouve qu'il y a plus de comédie dans ce film que dans beaucoup de comédies qui se positionnent comme des vraies comédies. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des vraies scènes de comédie.
Mais il y a aussi des Astérix, par exemple. Il y a des scènes de...
Depuis que je suis tout petit, quand on me demande d'où je viens, je dis que je viens d'Algérie. Pourtant, j'y avais jamais mis les pieds.
Vous n'avez pas le droit de faire ça! Dégage-moi!
Et c'est pas un immigré comme vous qui va nous expliquer comment gérer notre pays.
C'est vrai que les Marocains sont hyper au point pour tout ce qui concerne les tournages et les sociétés de production hyper pro sur place. Ils font du cinéma depuis 30 ans, ils tournent avec les Américains, avec les Australiens, les Anglais, les Chinois. Enfin, ils sont vraiment très bons là-dedans. Il y a des boîtes de prod hyper efficaces, il y a des très bons techniciens, il y a du très bon matériel. Et voilà, quand on fait un premier film, on a besoin aussi de se sentir encadré par une prod qui tienne la route. Et en Algérie, aujourd'hui, les prods qui tiennent la route, il y en a assez peu. Et puis, on parlait tout à l'administration, il faut aussi avoir, être sûr d'avoir toutes les autorisations tout le temps, de pouvoir filmer un port, de pouvoir filmer une autoroute, de pouvoir filmer voilà, une maison, un village, un café, sans être gêné.
Je ne savais rien du pays de mes parents, où ils étaient nés, comment ils avaient grandi. On n'est jamais trop curieux quand il s'agit de sa propre histoire.
Voilà, donc ça sort aujourd'hui, né quelque part, à souligner quand même, parce que je ne l'ai pas dit avant, que l'acteur principal Toufik Jellab est très bon et qui sauve quand même le film. Voilà, faut le dire.
Tout à fait. Je pense que c'est un acteur prometteur et qu'il risque d'être nommé d'ailleurs au César, j'imagine, en meilleur premier rôle. Mm-hmm. Enfin voilà. Meilleur espoir, voilà, c'est ça.
Tout à fait. Et c'est à voir, je suppose, au Gaumont, au Diago, ça m'étonnerait.
Ça m'étonnerait aussi, oui. Et voilà, c'est dans tous les autres cinémas.
Cinérama sur Divergence FM.
Un film, cette fois-ci, que vous pourrez voir au Diago, c'est A Very Englishman, réalisé par Michael Winterbottom. Alors, une vie normale est réservée aux gens normaux, ce sont les mots de Paul Raymond. Personnage fantasque, excentrique et jouisseur impénitent qui, dans les années 90, était l'un des hommes les plus riches d'Angleterre. Une fortune bâtie grâce à une vision, à une audace tournée plutôt vers l'érotisme. Alors, Paul Raymond est un homme à part, assurément. Hein. Fin des années 60, il dirige un club, le Raymond Revue Bar, où apparaissent des femmes dévêtues. Dans l'Angleterre puritaine, ça ne plaît pas vraiment, si ce n'est aux hommes concernés par le show, ce qui permet à Raymond de continuer à grossir et de proposer des revues dansantes à la manière du Moulin Rouge en plus cheap et débridé. C'est quand il publie Men Only dans les années 70, une revue mêlant contenu olé olé et images érotiques, que la fortune se consolide. Tout son fric, Paul Raymond le devra au désir des hommes de voir des femmes nues. Une règle simple, une fortune colossale à tel point, et le film s'ouvre ainsi, qu'il posséderait quasiment toute une rue du quartier de Soho. Enfin, il la possédait en tout cas, puisqu'il est mort en 2008. Very Englishman est un biopic centré sur la personnalité de Paul Richmond, ses femmes, ses conquêtes, le mépris pour son fiston et un attachement déraisonnable pour sa fille. En contrepoint de sa vie sentimentale et de sa trajectoire professionnelle, transpire la société anglaise des époques qu'on traverse. Que peut-on montrer dans les années 70 qu'on ne pouvait pas montrer dans les années 60 et idem pour les années 80? Alors cela passe par des séquences où l'on voit les spectacles se mettre au point et où le contenu des magazines n'est pas seulement suggéré. Il y a beaucoup de nus hein, dans A Very Englishman, beaucoup de filles, de fêtes, de drogues aussi, et quelques pleurs, mais beaucoup de couleurs. C'est un film pop avec une réalisation à l'avenant, ça part un peu dans tous les sens, et la forme peut paraître indigeste. Un biopic, ça n'est pas toujours bien passionnant, on peut forcer le trait d'une personnalité, ou au contraire choisir de l'atténuer. Ici, Winterbottom nous montre un Paul Raymond visionnaire autant qu'insupportable. Un homme professionnellement capable de s'entourer des bonnes personnes, d'être magnanime jusqu'à une certaine limite, mais aussi personnellement de ne pas toujours réussir à vivre ce qu'il a envie de vivre. C'est ainsi, le sujet n'est pas nouveau, vous savez, j'ai plein d'argent, mais sentimentalement c'est pas terrible, l'argent n'achète pas tout, mais je garde quand même l'argent. Alors on aperçoit ce qu'est être ignoré, mais aussi ce qu'est être pourri gâté. La palette est large. Ce qui finit par intéresser Winterbottom chez Paul Raymond, c'est sa relation avec les femmes et sa progéniture, donc qui est sa faiblesse, donc sa fille. Topless, coloré, parsemé d'humour, so british et plutôt plombant vers le dernier tiers où le personnage vieillit, revient sur sa trajectoire et voit sa fille en déliquescence, Very Englishman est tout de même porté par un bon casting. C'est Steve Coogan, habitué des castings de Winterbottom, qui joue les défroqués. Et puis, il y a une mise en scène suffisamment transparente pour ne pas ajouter la lourdeur à une débauche qui peut paraître sur certaines séquences excessive. Mais les seins nus, les strings et les paillettes étaient le quotidien du millionnaire. Donc, c'est montré en long, en large et en travers dans ce film. Alors, s'il s'attache à son sujet, c'est aussi un témoignage sur plusieurs époques, des années 60 à 90. Même si l'ensemble paraît trop surfait, comme c'est un biopic, c'est avec le prisme donc du même personnage où des mesures et frivolités rivalisent que l'on voit les événements, ce qui en fait jusqu'au drame des séquences jusqu'au drame des séquences légères avec un charme donc pop et sans prétention, mais on préfère la comédie au drame mal exploité du dernier tiers. C'est un peu lourdeau, c'est un peu convenu. Et on l'oublie une fois qu'on l'a vu, en fait. Voilà. A Very Englishman, donc, dernier film de Winterbottom qui est du genre à faire beaucoup de films de par an, à peu près. Voilà. Et qui traverse les genres. Et là, il se trouve que ce genre, le biopic, il l'a plutôt raté. On va écouter. Il n'empêche quand même l'univers musical, parce qu'il y a pas mal de musique dans ce film, vu que ce sont des femmes qui se mettent à nu. Elles se mettent à nu sur de la musique. Et on entend aussi du David Bowie.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo.
Voilà donc Bowie qui fait partie eh bien, des musiques additionnelles de A Very Englishman.
De toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Conneries, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Et nous arrivons maintenant eh bien, à la deuxième partie de Cinérama qui est entièrement consacrée à Alain Guiraudy, le réalisateur de L'Inconnu du Lac. C'est la deuxième partie de l'interview qu'on écoute maintenant.
C'est le nageur que tu cherches, je ne l'ai pas vu cet après-midi.
Il va venir. Fais chier, chaque fois qu'un mec me plaît, faut qu'il soit déjà avec quelqu'un. Ça a l'air sérieux leur histoire. L'autre, il le lâche pas.
Il n'y a pas que lui non plus.
L'homosexualité a été représentée au cinéma, mais pas forcément justement avec ces scènes de sexe. Alors on peut se souvenir vaguement de Cyril Collard, qui est un exemple assez connu, en tout cas pour le cinéma français. Le cinéma allemand, ils ont Fassbinder, qui a représenté... je ne me souviens pas de la sexualité précisément, mais en tout cas, les rapports entre hommes, oui. Et puis lui, il était homosexuel, c'est aussi votre cas. C'était le cas de Cyril Collard. Est-ce que c'est finalement plus pratique et pourquoi ce ne sont que les réalisateurs qui sont concernés par l'homosexualité qui la représente?
Parce que ça nous travaille, quoi. Voilà, non, de toute façon, je pense qu'on ne parle vraiment bien que de ce qu'on connaît, quoi. Et surtout en termes intimes, on a intérêt à être au plus près de la question. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs, il y a Kechiche qui s'est affronté à ce qui n'est pas sa sexualité puisqu'il n'est pas lesbienne. mais c'est étonnant parce que d'ailleurs, enfin, moi j'ai quand même j'ai ressenti, non pas une gêne, mais je me suis posé des questions en voyant il y a une grosse scène d'amour entre les deux jeunes femmes. Et moi je me suis posé des questions en voyant ça. D'ailleurs, je me suis dit, mais comment on fait quand on est un hétérosexuel, en plus un homme hétérosexuel, pour aller diriger deux femmes faisant l'amour, quoi. En même temps, c'est étonnant parce que l'auteur de la bande dessinée dont il s'est inspiré a dit que finalement c'était un fantasme, un regard d'hétéro sur de lesbiennes, quoi. C'était même un fantasme hétérosexuel. Et c'est vrai que finalement, la scène, la séquence entre filles est souvent présente dans le porno, dans la pornographie hétéro, quoi. Hein, je veux dire, c'est aussi bon. Donc, je me suis posé la question. Je ne sais pas si, s'il était au plus juste de cette représentation ou non. De toute façon, je ne suis pas lesbienne, moi non plus. Et je ne sais pas comment ça se passe entre les filles. Et après, oui, je pense. Ben, c'est vrai qu'honnêtement, moi, je pense que je serais hétérosexuel. J'irais pas du tout. Ben, je m'occuperais déjà de ma propre sexualité, quoi. Voilà, je pense pas que je m'intéresserais à l'homosexualité.
Vous venez souvent ici, vous? Je vous ai jamais vu dans les parages.
Vous êtes un habitué, vous?
Oui. Mais cet été, c'est la première fois que je viens.
Les paupières du silure?
Celui de 10 mètres?
De 5, ça suffira.
C'est des conneries, tout ça.
Moi, j'aimerais pas me retrouver face à un tel engin de rang.
Filmer, demander à deux comédiens d'avoir un rapport non protégé. Pour, moi que j'ai des rapports non protégés, ça me concerne, ça m'arrive évidemment, comme beaucoup, mais ça me concerne, ça me regarde moi. Après, en tant que patron, en tant qu'employeur, on va dire, en tant que directeur, chef d'une équipe, quoi. Je suis pas vraiment l'employeur, mais je suis quand même responsable de pas mal de choses. Demander à deux personnes qui ne se connaissent pas d'avoir des rapports non protégés. Même si même s'ils arrivent avec leur test de séronégativité et tout ça, il y a un truc qui se fait pas, quoi, voilà, qui posait un vrai problème éthique, quoi, voilà. On a envisagé un moment de faire ça en ayant recours à des prothèses, voilà. Mais les prothèses, c'est carrément pas souple comme façon de travailler avec les. Je préférais quand même privilégier une liberté de jeu avec tout le monde, quoi, voilà. Et j'avais plus besoin d'éjaculation, de sexe en érection que de pénétration, quoi, voilà. Je pouvais très bien. Le film n'avait pas besoin de ça, quoi. Voilà.
D'ailleurs, dans le dernier Carax, il y a une prothèse.
Oui. Ouais. Ouais. Ben voilà, moi, je pensais que vous faisiez référence à Holly Motors. Ouais, ouais. Oui, hein. Et parce que moi, je me demandais comment il fait pour tenir, pour bander aussi dur, aussi longtemps, Denis Lavant, quoi. Voilà. Et on m'a dit, c'est une prothèse. J'ai encore bien naïf, comme garçon.
Ok, il est beau, il est bronzé, il est musclé, il est bien foutu. Tu te rends peut-être pas compte tellement t'es amoureux, mais je te jure qu'il est bizarre.
Donc vous l'avez dit, vous faites des films un peu singuliers, qui ressemblent à aucun autre. Votre patte est reconnaissable, j'ai l'impression. Et ça m'a pas étonné, moi, de voir que finalement, votre dernier film, L'Inconnu du Lac, se passait quasiment au milieu de nulle part, parce que déjà, dans Le Roi de l'Évasion, il était question de ces lieux de rencontre en pleine campagne. Donc, comme c'était tourné dans le Tarn, enfin voilà, c'est vraiment le milieu homosexuel dans la campagne, comment ça peut se passer, quoi. Parce que ici, on est dans une ville où on dit que c'est la deuxième ville gay de France. Donc, pour se rencontrer, ils ont pas de soucis. Enfin, pour peu qu'on soit homosexuel, on n'a pas de problème pour se rencontrer ici à Montpellier. Mais après, quand on est à la campagne, ça se passe autrement. Et ça, non plus, le cinéma ne s'est jamais inquiété de cette situation.
Moi, j'essaie de faire des films singuliers. Je pense que normalement, l'ambition de tout cinéaste, ça devrait être ça. Je pense que bon, on est plus là pour ça, pour offrir un regard original sur le monde, quoi. Hein. Sur l'homosexualité à la campagne, ben déjà, même hors homosexualité, ben la campagne, on sent qu'elle intéresse plus grand monde, quoi, dans le cinéma. Il me semble que traditionnellement, quand même, c'était plus important, quoi, dans le cinéma français, la campagne. Maintenant, je trouve qu'il s'est vachement urbanisé, quoi. Et ça m'a très vite conforté dans l'idée de rester à la campagne quand j'ai vu, dans les années 90, je pense que c'était le summum, quoi, tous ces films hyper urbains et même hyper parisiens, quoi, qui se faisaient, quoi. Le cinéma d'auteur français ne produisait que ça. Ou alors, si, la campagne, c'était Jeanne de Florette et Manon des Sources par Claude Berry, quoi, voilà, qui oubliait juste de filmer la Provence, quoi, quand il faisait ça. Mais ouais, c'est ça. C'est rien que déjà la campagne, c'est pas représenté. Et puis après, l'autre chose, c'est qu'on a l'impression que rien que donner à voir des ouvriers ou des paysans qui en représentation sensuelle ou érotisée, quoi, Je veux dire, on a l'impression que c'est carrément révolutionnaire aujourd'hui, tellement tout ce monde-là est complètement exclu de la, mais même pas de l'homosexualité, de la sexualité tout court, et même de la sensualité, quoi. Je veux dire, si on lit la presse magazine, si on voit le cinéma, quand on voit la télé, c'est assez étonnant comme tout ça, alors que bon, je veux dire, ouais, où sont passés les Rémus, où sont passés, enfin quand même, c'était, pour moi c'était quelqu'un de sexy, Rémus, quoi, voilà, bon, donc... c'est finalement tout ça. Enfin, il y a mon désir à moi qui a envie, finalement, j'ai envie de parler du monde tel que je le vois, et puis du monde que je connais aussi, du monde qui m'est familier. Mais j'ai été vachement conforté dans cette envie-là, quoi, y compris politiquement, en réaction à ce que je vois, quoi, à ce que fait l'establishment ou le cinéma mainstream, quoi.
On peut peut-être parler de, du cinéma qui vous nourrit. Qu'est-ce qui vous nourrit?
Déjà, c'est étonnant. Enfin, déjà, il n'y a pas que le cinéma qui me nourrit pour le cinéma. Enfin, les influences sont quand même très, très multiples. Si on s'en tient au cinéma, les mecs qui ont été directement assez essentiels, je pense que c'est Nanni Moretti et Pedro Almodovar pour leur liberté de ton, pour ce qu'ils ont amené, quoi. Mais alors dans la nouvelle vague, évidemment que les gens de la nouvelle vague ont été importants, mais j'aime beaucoup citer Éric Rohmer. Évidemment que Renoir, que Hitchcock, là on me parle beaucoup d'Hitchcock par exemple, John Ford, tous ces gens-là ont été super importants. Après, ça fait partie quand même des influences qu'on digère, ça fait même partie du fond culturel commun maintenant, donc, et qui ressortent, voilà, suffit de les digérer et elles ressortent à un moment ou à un autre. Et puis beaucoup plus près de nous, les gens avec lesquels qui vraiment m'influencent, même si j'ai des réserves des fois sur leur travail, sans dire amène à tout ce qu'ils font, il y a vraiment les frères Larrieux, avec qui je me sens vraiment en dialogue cinématographique, il y a Bruno Dumont, qui paraît beaucoup plus loin de moi, mais quand même, je veux dire, ces films résonnent toujours en moi, il y a toujours quelque chose de... et quelque part, je réponds un peu à ce qu'il fait quand je fais un film, enfin, c'est des points d'appui, quoi. Et puis après, il y a un cinéaste portugais aussi, qui est João Pedro Rodrigues, qui a un film en salle, là, qui s'appelle La dernière fois que j'ai vu Macao. Enfin, il y a une ou deux salles à Paris, je ne suis pas sûr qu'il soit diffusé à Montpellier. Ouais. En province, ouais, ça ne doit pas être génial, ça viendra peut-être. Et donc, voilà, il y a des gens comme ça avec lesquels j'échange. Je me suis pas mal construit aussi cinématographique avec des gens comme Philippe Ramos, Yves Comont. Voilà, et puis voilà, puis j'aime bien rappeler, ouais, quand même, Sophocle, mais moi c'est très large, et Tintin, Hergé, a été très important pour moi, Pif Gadget, Fluide Glacial, avec notamment Gottlieb, Edika, j'ai lu ça toute mon adolescence, et même jusqu'à il y a 5 ans encore, je lisais ça régulièrement, et ça m'arrive de racheter Fluide Glacial, quoi.
Mais là, Edika, on a du mal à voir, parce que les gros seins, c'est pas trop votre cinéma.
Non, on le voit pas, mais je veux dire, je pense que dans son humour, dans mon humour, il y a quelque chose qui vient de là aussi. Alors, je pense que ça vient beaucoup de Tintin et d'Astérix, hein, mon humour, mais les Monty Python aussi. Moi, les Monty Python, ça a été une révélation. Moi, le jour où j'ai découvert les Monty Python. Puis après, j'aime bien citer Bertolt Brecht aussi. Ouais. Brecht, ça a été... Mais Beckett... mais après, c'est de l'influence, je pense, digérée, quoi. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on la voit réellement dans mes films.
Voilà, c'était Alain Guiraudy, donc qui parlait de son cinéma, un cinéma à découvrir parce que c'est un réalisateur quand même très singulier dans le paysage français. Et puis, on peut avoir ses films ça commence avec Du soleil pour les gueux, je crois, et puis, ça va jusqu'à L'inconnu du lac actuellement, sur les écrans.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes.
On termine très vite avec l'agenda et notamment ce soir une carte blanche à Patrick Bedos au cinéma Nestor Burma. C'est à 20h30 et qu'a-t-il choisi comme film ? Eh bien c'est Blue Velvet de David Lynch avec Isabella Rossellini. Isabella Rossellini qui est précisément aujourd'hui au Printemps des Comédiens ce soir à 22h dans Bestiaire d'amour. C'est un spectacle conférence sur la sexualité des insectes. On y est encore dans cette sexualité aujourd'hui dans Cinérama.
C'est l'été.
Avec un texte de Jean-Claude Carrière. Donc voilà, c'est une journée un peu spéciale, Rossellini. Demain à 20h, c'est à 10... Non, demain 20 juin à 19h40, c'est l'avant-première de Michael Colas, dernier film d'Arnaud Despalières avec Mads Mikkelsen. C'est une séance suivie d'un débat avec Arnaud Despalières qui sera présent. Et puis aussi, eh bien, la co-scénariste qui sera là. Et nous, on rencontrera Arnaud Despalières à 18h, car ça fait partie aussi des réalisateurs que j'aime beaucoup. Vendredi 21 juin, le jour de la fête de la musique, il y aura Quadrophénia, c'est à 17h30 au Diagonale. Et puis au Gaumont, ce sera mardi, Les Dents de la Mer qui reprennent avec une nouvelle version restaurée. C'est à 20h et c'est en version originale sous-titrée.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Vas-y Marine, si tu veux annoncer, que veux-tu annoncer ?
Le 21 juin, ici, à la radio, au boulevard Louis Blanc, à partir de midi, venez jusqu'à 1h, parce qu'on va faire la fête de la musique tous ensemble, pour une fois on ne parlera pas de cinéma. Oh. Et à suivre l'émission 24 notes secondes dans un autre registre, ce sera consacré cette semaine à All That Jazz. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.